Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, présenté par Lievin Mbwinga.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, État généraux de la justice, l'heure est toujours au diagnostic de la maladie appelée justice. Des solutions sont en train d'être proposées, comme l'effectivité d'exécution des décisions de justice avec effet dissuasif. Nous en parlons dans ce journal. Une autre maladie ronge l'État congolais, c'est l'opacité dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures routières à Kinshasa. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, qui crie au scandale, dénonce la disparition de 3 millions de dollars américains destinés à la réhabilitation de routes inexistantes en plus. À suivre dans un instant. Pour rester dans l'ambiance des États généraux de la justice, nous recevrons le professeur Emmanuel Zolobambi, ministre honoraire de la justice. Il va nous proposer la thérapie à la maladie de la justice congolaise, lui qui intervient sur la lutte contre l'impunité et la corruption aux États généraux de la justice. Encore une fois, bonjour. L'actualité toujours focalisée sur les travaux des États généraux de la justice. À deux jours de la date officielle de clôture, soit le 13 novembre, deux avocats qui participent aux travaux font un diagnostic croisé sur la justice pénale internationale et la gratuité de la justice nationale. Le chef du barreau de l'Ituri, bâtonnier Papiketa et Ruffin Louko, proposent quelques thérapies pour une bonne administration de la justice pénale internationale et nationale. Ils proposent, vous allez les entendre, l'effectivité d'exécution des décisions de justice avec un effet dissuasif. On les écoute tour à tour dans ce reportage de notre envoyé spécial à ses assises, Jeff Ngoy.
Sur le plan de la justice pénale internationale, le bâtonnier Papiketa s'interroge sur l'effectivité d'exécution des décisions de justice internationale sur la RDC et propose sa thérapie.
L'objectif de la justice pénale internationale, ça doit avoir un effet tout d'abord dissuasif. Par exemple, pour les premières affaires, Lubang avait été poursuivi pour conscription et enrôlement d'enfants soldats. Si vous allez sur terrain, jusqu'à présent, à Ituri, les crimes continuent. D'où on doit se poser la question, quelle thérapie pour ça? Et moi, je pense qu'il y a notamment l'importance d'avoir l'effectivité d'exécution des décisions avec un effet dissuasif.
Quant à Ruffin Louko du même barreau, il attend de ses états généraux l'effectivité de la gratuité de la justice nationale.
Pas de résolution aux états généraux si la justice n'est pas débarrassée de la présence de l'argent. Et donc la grande résolution, c'est comment chasser l'argent des palais de justice. Parce que la Constitution consacre que la justice est gratuite.
Après 4 jours de panels enrichis, des exposés scientifiques, des doctrinaires de la justice et autres, les états généraux amorcent ce lundi leur dernier virage. Ce sera la fin des panels et demain mardi, les travaux éclatent en commission pour mettre en forme tout ce qui a été proposé en guise des résolutions attendues.
Notez qu'au cours de ces états généraux de la justice, certaines personnalités soutiennent la thèse de la révision de la Constitution, cela pour actualiser le cadre juridique congolais. L'actualité, c'est aussi la révision de la Constitution, nous venons de le dire. Pour preuve, plusieurs personnalités indépendantes des mouvements citoyens et des partis de l'opposition lancent un appel au sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Félix Tshisekedi. Ils l'ont exprimé samedi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Selon eux, il s'agit de se rassembler conformément à l'article 64 de la Constitution dans une initiative citoyenne ouverte à tous les patriotes. On écoute un extrait de leur déclaration lue par Ados Ndombassi, président du regroupement Alternatif 2028. Il est au micro d'Étienne Lissumbo.
Congolaises, Congolais, la mère patrie, la République démocratique du Congo, vous appelle au sursaut national contre la dictature de Félix Tshisekedi en annonçant le 23 octobre 2024, depuis Kisangani, sa volonté de changer la Constitution. Félix Tshisekedi a manqué à son devoir et montré son mépris de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État. Briser le pacte de la stabilité républicaine pour s'octroyer un troisième mandat à la tête du pays et se maintenir au pouvoir à vie est une initiative hasardeuse dont l'unique bénéfice est personnel. Dressons nos fronts contre la régression de notre démocratie. Au-delà de nos divers clivages, disons tous non au retour au pouvoir d'un seul et à l'anarchie. Levons-nous, réaffirmons publiquement et courageusement en acte le fondement de notre constitution du 18 février 2006. Ou en tirant les leçons de notre histoire, nous avons ensemble décidé qu'aucun individu d'aucune sorte ne peut exercer plus de 2 mandats à la tête du pays.
Ados Ndombassi, président du regroupement Alternatif 2028. Parmi les signataires de cette déclaration, on peut notamment citer Deli Sessanga du parti En Vol, Jean-Claude Katende de l'Azado et Fred Bahouma de La Lucha. Politique encore, les préparatifs de la reprise des élections législatives partielles à Massimanimba et Yakoma se poursuivent. Mais dans la circonscription électorale de Yakoma, dans la province du Nord-Oubangui, la population signale certaines difficultés d'ordre organisationnel. D'après le député honoraire et initiateur du parti politique Agir pour le développement du Congo nouveau, ADCN, Justin Dédé Kodoro, la CENI devrait multiplier les centres de délivrance des duplicata aux électeurs dont les noms sont sur les listes électorales. Par ailleurs, il appelle la population au calme et à éviter les désordres pour ne pas continuer à pénaliser le territoire de Yakoma qui n'a plus de représentants dans les différentes institutions électives du pays. Justin Dédé Kodoro est au micro de Jacques-Yves Molima.
À Yakoma, les équipes de CENI se sont déployées. Tout semble bien se passer pour l'instant, mais il y a des difficultés. Et ces difficultés concernent plus les duplicata des cartes d'électeurs que la CENI devrait donner à tous les électeurs qui ont leurs cartes, qui sont soit effacées, soit perdues, et ils sont sur la liste affichée par la CENI. Vu le temps qui s'est écoulé, la grande partie de la population ne dispose pas de cartes. La CENI a mis quelques machines dans certains centres. Alors, la population est en train de demander à la CENI de multiplier ou d'ajouter encore d'autres bureaux qui peuvent accélérer le processus de délivrance des duplicata. La population doit comprendre qu'on organise ces élections-là pour elle, doit avoir un comportement digne et aller choisir dans la paix. Le désordre, la population doit éviter de s'apprendre au matériel de la CENI et ils doivent aussi éviter à ce que les troubles surviennent encore.
Opacité dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures routières de Kinshasa, le Centre de recherche en finances publiques et développement local crie au scandale. Il dénonce la disparition de 3 millions de dollars américains destinés à la réhabilitation de routes inexistantes en plus. Dans son rapport d'enquête rendu public vendredi dernier, le CREFDEL déplore la construction sans étude préalable de routes de très mauvaise qualité ou à usage unique malgré des millions de dollars décaissés du Trésor public. Si le plan directeur des transports urbains réalisé par la coopération japonaise n'est pas exécuté, avertit Valérie Madianga, coordonnateur du CREFDEL, la ville de Kinshasa n'aura jamais de bonnes routes et ne pourra pas résoudre le problème d'embouteillage. Reportage Michel Kifindangoy.
D'entrée de jeu, le coordonnateur du CREFDEL dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement construit des routes de mauvaise qualité sans études préalables alors qu'il existe un plan directeur de transport pour résoudre les problèmes d'embouteillage à Kinshasa. Valérie Madianga.
Mais nous avons des routes qu'on réhabilite, qu'on conçoit à Kinshasa, qui ne tiennent pas compte de ces plans. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'argent on décaisse pour la ville de Kinshasa. Et ces fonds ne peuvent en aucun cas construire des routes de qualité. Si ces plans n'est pas mis en œuvre, nous n'aurons jamais des routes de qualité dans la ville de Kinshasa.
Valérie Madianga déplore l'opacité dans la gestion des projets Kinshasa Zéro Trou et Chile Gelou.
La mise en œuvre de ces deux projets, je pouvais vous dire que c'est chaotique. Nous avons par exemple des tronçons qu'on a insérés dans les deux projets qui n'existent pas. Les coûts de frais administratifs sont très élevés. La quotité qui va vers les infrastructures, c'est trop faible. Et vous avez des collecteurs d'eau qui ne tiennent pas compte des conditions climatiques, des routes à usage unique.
L'absence des études préalables, la surfacturation des projets et la consommation de la quasi-totalité des fonds alloués aux dépenses administratives plutôt qu'aux infrastructures elles-mêmes sont les principaux problèmes de gestion dans le secteur.
Ango, situé à plus de 500 km au nord de Kisangani, en proie à la rougeole, selon l'administrateur de cette juridiction de la province du Bazouélé qui livre cette information, plusieurs enfants et adultes sont atteints de cette maladie depuis environ un mois. Et Marcelin Lekaboussia d'ajouter que le territoire manque de moyens appropriés pour assister l'hôpital général de la place en vue de la prise en charge des patients. Il a été joint au téléphone par Jacques Mokonkole.
Nous avons un grand problème de rougeole ici. Ça a attaqué même les adultes, les enfants à l'hôpital, ça ne va pas. Jusqu'au 26 octobre passé, on a enregistré déjà 243 malades. Il y a eu même des cas de décès. Localement, il n'y a pas de moyens. Les lits sont vraiment presque remplis de malades. À la cité, il y a aussi des gens qui sont là. Faute des moyens d'aller directement à l'hôpital. On a même constaté des cas de décès par-ci, par-là. Avant-hier, j'étais à l'hôpital. Si de ces cas, quand l'enfant était terné, la capacité de quai, on a au moins 20 lits seulement, mais lorsqu'on va jusqu'à 30, 50, c'est beaucoup déjà.
Si les gens couchent à même le sol, ça ne va pas. Et les médecins sans frontières sont saisis hier pour nous informer leur atterrissage juste pour riposter contre ces fléaux.
Autre nouvelle, le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pirorès, une réalité dans la province du Kwilu. Il a été lancé le week-end dernier. Ce programme qui vise à lutter contre la déforestation et le changement climatique entend mettre en œuvre des actions de protection des écosystèmes forestiers et de la savane essentielle à l'équilibre et environnemental. C'est le gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai, qui a procédé à ce lancement. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Marinelle à Kikuit en présence de tous les administrateurs de territoire du Kwilu, des membres du gouvernement provincial, des autorités sécuritaires et autres couches de la population. Reportage Irène Mbomaluzolo.
Les programmes d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest est l'un des projets du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Appuyé financièrement par la Banque mondiale à la hauteur de près de 300 millions de dollars américains, Piforest a comme objectif de lutter contre la déforestation et contre les changements climatiques. C'est ce qu'a déclaré son coordonnateur national à l'occasion du lancement officiel du programme le week-end dernier à Kikuit dans la province du Kwilu, Clément Vangou.
Les Piforest visent à lutter contre la déforestation et contre les changements climatiques.
Avec l'émergence de la finance climatique et l'ambition des autorités du pays de faire de la RDC un acteur majeur de l'économie verte, les Piforest va permettre au pays de développer des capacités pour positionner la RDC comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques.
Pour les gouverneurs intérimaires du Kwilu, Piforest est d'une importance très capitale pour le développement socio-économique de la province. Félicien Kiwai invite toutes les parties prenantes à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de ces projets en vue d'atteindre tous ces objectifs dans la province. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dossier démolition des maisons dans la zone d'emprise de l'aéroport national de Bipemba-Mbujimayi. Les familles des victimes reviennent à la charge. Elles réclament une indemnité équitable d'après leur avocat conseil qui soutient qu'il n'y a eu aucun acte de démolition signé. Toutes ces familles ont accepté de quitter le site sans une indemnité conséquente pour reconstruire leur maison démolie. Jean-Alexis Kassoua sur des propos recueillis par François Kadima.
Les gens qui disent qu'ils ont reçu l'argent, quelqu'un qui reçoit par exemple 800 dollars américains ici en Mbujimayi, vous allez dire qu'il a reçu une indemnité équitable. Il a reçu l'argent pour aller se construire une maison dans un site quelque part. Une situation entretenue à dessein, une situation floue, pour spolier les gens de leurs biens. Le site dont on parle à Benantumba, les gens ont dit, écoutez, nous sommes d'accord, on veut qu'on améliore le milieu, paye-nous équitablement, nous allons partir. Là où nous allons partir, vous devez vous envoyer en brousse, vous devez d'abord faire des routes, installer un poste de la police, les services ordinaires comme le marché, l'hôpital, le dispensaire, l'école, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse abandonner ce que nous avons ici pour partir. Mais on a vu par après les engins venir, détruire les biens des gens, et puis après, moi je posais la question, posez-vous aussi la même question, quel est l'acte qui a été exécuté? On a démoli en exécution de quelle décision, de quelle instance? Le chef de l'État n'a pas signé, le ministre national en charge des affaires foncières n'a pas signé, il n'y a pas un jugement du tribunal. Et nous en sommes là.
Actualité internationale.
Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu au total 70 drones ukrainiens ce dimanche, dont près de la moitié dans la région de Moscou, une attaque inédite vers la capitale par son ampleur depuis le début du conflit en 2022. De son côté, l'Ukraine a subi pendant la nuit une attaque record de 145 drones russes, dit son président. Il s'agit d'une des attaques les plus importantes de drones visant la capitale russe depuis le début de l'offensive en Ukraine en 2022.
L'invité.
État généraux de la justice, l'insatisfaction du peuple dans la distribution de la justice est une des causes qui rongent la justice congolaise, selon le professeur Emmanuel Luzolo Bambi, ministre honoraire de la justice, intervenant aux travaux des États généraux de la justice sur la lutte contre l'impunité et la corruption. L'ancien ministre fait ici le diagnostic et propose la thérapie à la maladie de la justice congolaise. Emmanuel Luzolo Bambi est l'invité de Radio Kapi. Il s'entretient ici avec Jeff Ngoy.
Professeur Luzolo Bambi, bonjour.
Bonjour.
Quel diagnostic faites-vous de la maladie de notre justice?
Oui, dans ma compréhension, la maladie dont souffre la justice procède de l'interprétation de l'article 149.3 de la Constitution qui dispose que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais. Tous les jours, dans les toutes cours et tribunaux, lorsque les magistrats prononcent leurs décisions, c'est au nom du peuple congolais. La problématique, donc le peuple est dépositaire de la justice. Est-ce que ce peuple est satisfait? Apparemment, non. Et donc la maladie de la justice, que l'on peut considérer comme maladie, est le fait justement que le peuple, aujourd'hui, ne se retrouve pas vraisemblablement dans les décisions rendues par les cours des tribunaux. Ça, c'est l'interprétation de la maladie. Maintenant, en termes de diagnostic, c'est cette maladie-là, mais qui a des causes. Il y en a beaucoup, les causes. Mais
quelles sont ces causes?
Moi, je les distingue en deux. La première cause, elle est technique. La seconde cause, elle est sociologique ou anthropologique. La cause technique, c'est que la justice congolaise est organisée constitutionnellement en tant que pouvoir. Mais la manière dont elle est pratiquée dans ses rapports avec les autres organes de l'État donne l'impression que la justice congolaise n'est pas un pouvoir judiciaire, mais plutôt une autorité judiciaire comme en France. Donc cette ambivalence, cette confusion entre le regard du pouvoir judiciaire et la pratique de l'autorité judiciaire fait que les conséquences, c'est un affaissement de la justice et il est difficile qu'elle puisse produire les résultats qu'on attend d'elle. Ça, c'est une cause technique. Elle est objective. Et je demande par rapport à ça qu'au niveau des États généraux et au niveau de toutes les institutions du pays, que le Congo lève l'option. Est-ce qu'on a un pouvoir judiciaire ou bien on veut une autorité? C'était les causes techniques. Maintenant, les causes sociologiques et anthropologiques, c'est l'impunité généralisée. Ça signifie quoi? Je donne les axes de cette impunité qui sont extrêmement graves. 1. La protection des droits de l'homme. Nous avons un pays aujourd'hui qui compte 10 à 15 millions de morts dans les différents conflits armés que nous avons connus sans solution claire. Vous vous rendez compte de ce qu'est 10 millions de morts? Il n'y a pas de réaction de l'État. C'est l'impunité généralisée. Pas de sanctions contre les violations des droits de l'homme. Deuxième axe, aspect corruption. Le non-respect du bien commun. Le détournement des deniers publics. La corruption, la concussion, c'est vrai, il y a quelques temps on m'est reproché, on parlait des 10 milliards qui s'évaporaient chaque année.
15 milliards.
Vous, 15 milliards, vous me regardez bien, je suis à l'aise aujourd'hui, monsieur Jeff, parce qu'avec le temps, l'État congolais a fait aujourd'hui un bond de 4 milliards vers 18 milliards, comme je l'entends. 4 moins 18, ça fait combien? C'est 14.
Vous
voyez?
Vous avez parlé d'une ambivalence entre le pouvoir judiciaire et l'autorité judiciaire. C'est quoi la différence?
Juste un élément simple, définissant le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir judiciaire, le magistrat est inamovible, le juge notamment. On ne peut pas déplacer un juge sans son consentement parce qu'il a le pouvoir judiciaire. Mais regardez comment les affectations, les mutations se font. Ça ne correspond pas au pouvoir judiciaire. Ça, c'est un exemple simple. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y en a beaucoup.
Quelles sont les réformes que vous proposez?
Mais non. Alors, quelles sont les solutions? Je dois finir par les causes. La justice à deux vitesses. Les immunités et les inviolabilités. Le premier ministre, les députés, les sénateurs, pour les poursuivre, le procureur général doit solliciter
l'autorisation.
L'Assemblée nationale. Qui doit se réunir en plénière et par une majorité qualifiée pour autoriser qu'on poursuive un ministre. Vous vous rendez compte? Et on en a poursuivi depuis combien? La justice s'arrête à la porte du Parlement parce qu'il est rare que le Parlement lève les immunités ou autorise ce type de poursuite. Conséquence, il y a une classe politique qui se protège, qui est immunisée Et ceci consacre malheureusement constitutionnellement l'impunité généralisée. Et ça crée une situation telle que la justice devient une justice pour les faibles. Parce que les forts ne peuvent pas être poursuivis. C'est une cause de la faiblesse de notre justice.
J'entends ici les gens dire qu'il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par un Conseil supérieur de la justice.
S'il vous plaît, je reste droit par rapport à mon discours d'orientation. J'ai soulevé le problème. Ce n'est même pas supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est plus que ça. On reste dans le pouvoir judiciaire où on s'oriente vers l'autorité judiciaire. Et dans chaque cas, il faut en tirer les conséquences juridiques.
Merci, professeur.
Merci.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung, à Jacques-Yves Molima et à Alain Goy. Excellente journée à tous.